La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
No one has the privilege to say we are not aware of what's happening. No one in the future will be able to say we did not know.
Personne n'a le privilège de dire « nous ne sommes pas au courant de ce qui est en train de se passer ». Ces mots, ce sont ceux de Greta Thunberg, qui s'exprimait hier, lundi 6 octobre, à l'aéroport d'Athènes, après sa libération et celle de 170 autres participants et participantes de la Global Summit Flotilla, de la prison israélienne où ils et elles étaient détenus. Parce que oui, alors que les matinales et les JT se prennent de passion pour la politique fiction et font des paris sur une éventuelle prochaine dissolution de l'Assemblée, spoiler alerte, un génocide est toujours en cours à Gaza. Et ce, depuis précisément 2 ans. Deux années de bombardements d'hôpitaux, d'écoles, de maisons, de massacres de civils, de famines méticuleusement planifiées par le blocage de l'aide humanitaire. On ne rappellera jamais assez les chiffres, probablement largement sous-estimés par ailleurs, qui dressent un bilan effroyable de ces 2 ans. Au moins 67 000 Palestiniens et Palestiniennes assassinés par Israël, dont au moins 20 000 enfants. Ça fait une personne sur 33 sur les 2 millions d'habitants et habitantes de Gaza. 169 000 blessés, un enfant gazaoui sur 4 qui souffre de malnutrition sévère, près de 300 journalistes et plus de 1700 travailleuses de la santé assassinés, 11 000 Palestiniens détenus dans des conditions atroces dans les prisons israéliennes, et la liste est encore très longue. Cependant, est-il encore nécessaire de répéter que la volonté de nettoyage ethnique de la population palestinienne n'a pas démarré le 7 octobre 2023 et que l'anéantissement de l'État de Palestine est au fondement même du projet sioniste depuis la Nakba et l'exode palestinien de 1948 ? Et en face, comme le rappelait encore Greta Thunberg dans son intervention, notre système international abandonne les Palestiniens et les Palestiniennes. Le fameux plan Trump pour la paix à Gaza condamne les Palestiniens et Palestiniennes à choisir entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre la fin de la guerre, mais un abandon définitif du contrôle de leur territoire au profit d'Israël, ou bien la poursuite du génocide s'ils le refusent. À l'heure où une nouvelle flottille, la Thousand Madeleines for Gaza, composée d'une vingtaine de bateaux, est actuellement en route pour tenter à nouveau de briser le blocus israélien, plus que jamais, mobilisons-nous pour réclamer la fin du génocide, l'embargo sur l'exportation des armes à Israël et la levée du blocus humanitaire et Free Palestine. Au programme de cette matinale, on discutera d'abord des liens entre les milieux d'affaires et l'extrême droite avec le journaliste d'investigation Laurent Mauduit, qui répondra aux questions de Sylvie et moi-même sur son dernier livre enquête, Collaboration. Dans le Zoom, Abel recevra Sébastien Follin, cofondateur et président d'honneur du festival Atmosphère dédié aux enjeux du développement durable. Delila nous parlera de Delila dans sa chronique. Et aujourd'hui, pas de Flash Info, mais un reportage sur la fête du sport.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et donc pour commencer cette émission, nous sommes en ligne avec le journaliste Laurent Mauduit qui vient nous parler de son enquête sur les liens entre les milieux d'affaires et l'extrême droite. Est-ce que vous êtes avec nous ?
Absolument, bonjour.
Bonjour Laurent Mauduit, merci beaucoup d'être avec nous sur la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des affaires économiques et des milieux d'affaires et vous avez notamment cofondé Mediapart en 2008. Vous êtes également écrivain et auteur de nombreux ouvrages et nous vous recevons aujourd'hui pour discuter du dernier Collaboration, enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires qui est paru en septembre dernier aux éditions La Découverte. Dans cet ouvrage, vous levez le voile sur les complicités historiques et présentes entre les élites économiques françaises et l'extrême droite. Et vous y décryptez bien sûr les projets politiques de Pierre-Édouard Sterrin ou Vincent Bolloré, mais aussi ceux de patrons plus discrets, pour qui une possible accession au pouvoir du RN ne serait qu'un moindre mal et qui semble totalement prêt à collaborer avec l'extrême droite. Aux grandes dames du feu, barrage républicain, on aura l'occasion d'y revenir dans cet entretien. Pour commencer, dans l'introduction de votre ouvrage, vous expliquez que l'idée de mener cette enquête est née juste après la dissolution de l'Assemblée en juin 2024 et justement de ce fameux barrage républicain qui devenait de plus en plus fragile chez de nombreux patrons français. Pour commencer, une première question, ce serait, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie d'enquêter sur ce sujet et de vous lancer dans la rédaction de ce livre ?
Écoutez, j'ai eu une intuition d'abord et puis il y a eu 2 déclics. L'intuition, c'est une sorte de souvenir historique, c'est que l'extrême droite n'est jamais arrivée au pouvoir dans le monde sans l'aide ou le consentement des milieux d'affaires. Hein. C'est vrai en Italie en 1922 avec Mussolini, c'est vrai évidemment avec Hitler en 1933 en Allemagne, et c'est vrai plus récemment au Chili. Voilà, donc ça c'est le souvenir que j'avais à l'esprit. Et puis il y a eu deux déclics. Le premier déclic, c'est évidemment les législatives de juillet 2024, où d'un seul coup, le patronat arrête de faire jouer le barrage républicain qui jouait avant, certes, mais il est un peu fragile, mais qui fonctionnait tout de même. Hein. Vous vous souvenez, 2002, Jean-Marie Le Pen contre Chirac, le patronat appelle à voter Chirac. Mmh. Voilà, donc ça, c'est le premier déclic. Et puis le second déclic viendra quelques mois plus tard, quand j'ai commencé l'enquête, c'est la seconde élection de Trump avec autour de lui des hommes d'affaires très proches, très liés à l'extrême droite. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il était utile, qu'il était civiquement important d'essayer d'éclairer les citoyens pour voir la réalité des connexions entre les milieux d'affaires français et l'extrême droite, à la fois française et l'extrême droite américaine. Voilà le cheminement.
Et est-ce que vous pourriez revenir sur la démarche d'investigation et la méthodologie que vous avez adoptée pour cette enquête? Et notamment, est-ce que vous pourriez aussi préciser quelle figure du patronat français vous avez pu rencontrer pour votre enquête? Et notamment, quelles difficultés aussi, quels refus vous avez pu potentiellement recevoir?
Écoutez, vous imaginez, hein, enquêter dans ces domaines, c'est quand même très très compliqué parce que l'entreprise est en lieu encore plus monarchique que le pouvoir politique. Hein. Il y a un seul homme qui sait, c'est le patron. Et donc, je me suis heurté à une quantité invraisemblable de refus. Hein. Donc, c'est en forme de moquerie, j'ai dit dans l'introduction du livre, c'est une enquête non autorisée. Hein. Donc, j'ai eu énormément de refus. Voilà, il y a quelques grands patrons qui ont accepté de me parler, très peu. Le président du MEDEF, hein, l'organisation patronale, a accepté de me parler, voilà. Donc, mais ça a été assez compliqué. Alors, le résultat de l'enquête, hein, en fait, ça permet de dresser une typologie des patrons selon leur proximité avec l'extrême droite. Alors, il y a d'abord un premier cercle, hein, des patrons fachos, hein, disons le mot clairement, c'est Vincent Bolloré qui a été sur le tard, vieillissant, convaincu de la thèse raciste et xénophobe du grand remplacement, hein, la thèse d'Éric Zemmour. Voilà. Pierre-Édouard Sterrin, c'est un autre, hein, vous savez, c'est un plus jeune financier. Voilà.
Absolument.
Et on pourra y revenir, voilà. Et puis il y a le grand, et puis il y a les patrons qui n'apparaissent pas comme d'extrême droite, mais qui sont quand même sympathisants. Et le premier d'entre eux, c'est le plus puissant des grands patrons français, c'est Bernard Arnault, qui est à la fois un ami de Vincent Bolloré, proche de lui, qui publicitairement l'aide massivement parce que LVMH finance tous ses journaux, notamment le Journal du Dimanche depuis le putsch qu'ils ont mené pour virer toute la rédaction. Voilà. Et puis, il y a le grand magma des grands patrons. Et ceux-là, il y a au moins un trait commun, un accord commun entre tous, qui est récent et qui dit bien le danger démocratique dans lequel nous sommes. C'est que la gauche est pour eux un danger beaucoup plus fort que le danger de l'extrême droite. Et ça, c'est nouveau parce que avant, l'extrême droite, les grands patrons se tenaient à distance pour des raisons liées à l'histoire. Ils ne voulaient pas faire croire qu'ils n'avaient pas rompu avec l'histoire de Vichy. Mmh. Et donc là, maintenant, vous avez bien vu, en juillet 2024, le président du MEDEF, donc le patron des patrons, a dit à plusieurs reprises que le programme du nouveau Front populaire était plus inquiétant. Mmh. Donc voilà, c'est un peu le résultat essentiel côté français de l'enquête que j'ai menée.
Et d'ailleurs, cette opposition au programme de gauche lors des législatives de 2024 n'est pas sans rappeler l'opposition au Front populaire de Léon Blum en 1936. Il y a vraiment un parallèle entre les deux, c'est ce que vous...
Exactement. Vous en fait, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles entre les années 30 et aujourd'hui. Et donc, moi, je consacre un chapitre à expliquer quelle a été la dynamique politique qui a conduit les patrons. D'abord, ils sont, au moment du Front populaire, ils sont ébranlés dans leur pouvoir. Avant 1936, On a un patronat de droit divin, un fonctionnement très vertical, très autoritaire. Et les grèves sont pour eux une insulte, c'est une remise en cause de leur pouvoir. Alors, ils ne sont pas tous d'extrême droite. Hein. Il y a des patrons qui financent les ligues de l'époque, les ligues d'extrême droite. Mais en fait, soit la peur du Front populaire, soit la haine du Front populaire va tous, ou presque tous, les pousser vers la droite, vers l'extrême droite, et finalement va les amener à Vichy. Et je trouve qu'il y a une dynamique qui... C'est pour ça que je me dis que les temps que nous vivons sont inquiétants. Il y a une dynamique politique qui est assez semblable aujourd'hui. C'est que ce qui est très nouveau, c'est que le patronat dise aujourd'hui que le programme du nouveau Front populaire est plus inquiétant que celui de l'extrême droite. Quand même, observez que le programme du nouveau Front populaire de juillet 2024 est beaucoup moins hardi que le programme de la gauche en 1981. Et malgré tout, et je me dis que c'est l'un des signes de ce basculement historique qu'on est en train de vivre, c'est que le patronat commence à considérer que l'extrême droite est une solution possible. Mmh. Et si vous observez, il y a une déclaration récente du président du MEDEF dans une interview à Radio Classique où il dit en fait qu'il n'y a que trois personnalités politiques qui ont pris la mesure, citation, des périls économiques, et il cite Attal, Retailleau et Bardella. Hein, donc Retailleau, LR, mais en fait extrême droite, et Bardella, le Rassemblement national. Ça dit bien que le patronat a beaucoup bougé et qu'il se rapproche du Rassemblement national.
Et justement, vous parlez de ce rapprochement entre le patronat français et l'extrême droite. Selon vous, selon votre enquête, quels sont les intérêts qu'il y a derrière à vouloir s'allier à l'extrême droite et quels mécanismes sont mis en place pour favoriser cette collaboration?
Écoutez, les intérêts sont assez simples. Hein. Le patronat défend ses intérêts matériels, c'est-à-dire accumuler du capital, accumuler des profits. Et donc, pendant un temps, si on fait l'historique rapide, 2017, les grands patrons, c'est-à-dire en clair les patrons du CAC 40, hein, les groupes très internationalisés, sont favorables à Fillon. Et puis, quand il y a le naufrage calamiteux de la campagne de Fillon pendant la présidentielle, en fait, ils se rangent derrière Macron. C'est une divine surprise. Ils sont marouches de Macron. D'un seul coup, en 2024, ils lui en veulent terriblement à cause de la dissolution, parce que d'un seul coup, l'avenir devient totalement illisible. Et c'est à ce moment-là que le patronat commence à se dire que le Rassemblement national est une option possible. Et il le considère d'autant plus que le Rassemblement national change, en tout cas en apparence, parce que je pense que moi, au fond, il n'a jamais changé, mais il y a un effet de vitrine. Le Rassemblement national, qui était très... souverainiste, nationaliste, autoritaire. D'un seul coup, il se dit qu'il va essayer de répondre aux demandes des patrons qui aiment bien que les partis soient pro-Europe et, comme ils disent dans leur jargon, pro-business. Et donc, en fait, l'ERN fait un pas vers les patrons et les patrons font un pas vers l'ERN.
C'est ce que j'allais dire, exactement.
Donc, c'est ça que... c'est pour ça que je parle de moments importants, un moment où la jonction est en train de s'opérer.
Oui, un moment de mutation aussi, comme vous disiez, avec ce changement de discours, en tout cas dans l'apparence du RN à partir de 2022, à vouloir avoir un discours qui séduit le grand patronat français.
Oui.
Et justement, pour revenir, tout à l'heure, on parlait de Pierre-Édouard Sterrin, donc pour résumer pour nos auditoristes qui ne connaîtraient pas encore ce milliardaire ultra-conservateur en puissance, qui, depuis que son projet Périclès, son plan de plusieurs dizaines de millions d'euros, a été révélé par l'Humanité en juillet 2024, donc c'est un plan pour faire gagner l'extrême droite en 2027 aux élections présidentielles. Ouais. Et Sterrin, c'est depuis devenu un peu un exemple des plus éloquents de ce rapprochement que vous décrivez entre l'extrême droite et le patronat. Et d'ailleurs, vous consacrez à Sterrin un chapitre entier de votre ouvrage. Il y a quelques jours, le 2 octobre, l'Observatoire des multinationales a publié une longue enquête qui révèle la complicité implicite du secteur de la tech française avec Sterrin, avec qui la plupart des entrepreneurs continuent en fait de faire affaire comme si de rien n'était, en ignorant complètement ses prises de position réactionnaires. Et l'auteur de l'enquête, oui, il écrit « C'est peu dire que l'évocation de Pierre-Édouard Sterrin crispe dans le secteur français de la tech. » Une question toute simple, comment on explique que le cas Sterrin, malgré ses prises de position plus qu'explicites et plus que claires sur la vie politique, pourquoi le cas Sterrin reste aussi tabou dans le secteur de la tech, notamment de la tech française du coup?
Ah bah, moi, je ne dis pas tabou. Hein. Moi, je pense... Enfin, donc c'est vrai que c'est Sterrin, c'est un peu comme Bolloré, mais c'est une nouvelle génération. Il est plus jeune, hein, donc c'est facho 2.0. Mm-hmm. Donc, c'est un peu différent. Donc, il y a une culture numérique, voilà. Et à la différence de Bolloré, c'est le vieux capitalisme français. Mm-hmm. Hein, Bolloré a construit son empire autour de Vivendi, mais à l'origine, il les construit les décombres du capitalisme colonial français. Hein. C'est les infrastructures portuaires en Afrique, c'est les bois précieux en Afrique, voilà. Mm-hmm. Sterrin est plus jeune, plus dans la culture numérique californienne, si je peux dire. Ouais. Il est quand même ultra conservateur. Hein. C'est les campagnes qu'il mène, c'est contre le droit à l'avortement, contre la plupart des droits des femmes. Hein. Mm-hmm.
Mais
oui,
il
est très branché.
Dans une
très lié à la manif pour tous, mmh. Voilà. Mais la singularité de Sterrin, c'est qu'il est assez proche. Bah, lui finance, avec son fonds d'investissement, qui est très important, hein, il finance beaucoup de start-up françaises, notamment des start-up dans la tech. Or, le bouillonnement ultra-réactionnaire aux États-Unis est parti de la tech. Mmh. Les grands milliardaires qui ont soutenu Trump, hein, que ce soit Elon Musk, l'homme du salut nazi, que ce soit son associé Peter Thiel, le fondateur de PayPal, il vient de la Californie, enfin à l'origine, pour dire vrai, ils viennent d'abord de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Mm-hmm. Mais ensuite, ils viennent faire du business en Californie. Et la tech californienne, c'est elle qui a basculé à l'extrême droite avec des thèses ultra réactionnaires en disant que la démocratie devient un frein pour faire du business. Hein. Mm-hmm. Je vous ai cité à l'instant Peter Thiel, le fondateur de PayPal. Peter Thiel écrit il y a 20 ans. Donc, on a manqué de vigilance, nous, en Europe. Et il écrit, j'en suis arrivé à la conviction que la liberté au sens où il entend, la liberté du commerce, la liberté du profit, est devenue incompatible avec la démocratie. Et il est très influencé, ce Peter Thiel, par un blogueur californien qui s'appelle Curtis Yarvin, qui dit à la même époque, que reproche-t-on donc aux nazis? Hein, et donc, vous voyez bien ce bouillonnement ultra-réactionnaire. Mmh. Et ce Sterrin est plus influencé, et c'est le seul Français, le seul grand patron français qui se dit libertarien. C'est l'idéologie californienne dont je viens de parler. Donc là, c'est en cela que Sterrin, plus petit que Bolloré, très riche, mais quand même, c'est un petit par rapport à Bolloré, et révélateur des temps nouveaux inquiétants qui arrivent.
Et justement, vous parlez de cette attaque aux valeurs démocratiques, à cette attache à la liberté, au libertarisme. Dans votre ouvrage, vous citez un concept, qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau capitalisme libertarien, qui serait donc successeur du néolibéralisme et qui a des liens très forts avec l'extrême droite. Et vous citez notamment des exemples à l'échelle mondiale, l'anarcho-capitaliste Javier Milei en Argentine, Jair Bolsonaro au Brésil, qui a par ailleurs été condamné récemment par la justice brésilienne. Comment définiriez-vous ce capitalisme libertarien?
Alors, donc, vous comprenez bien que la référence que ces gens-là font à la liberté est une référence faussée. Pour eux, c'est la liberté, c'est un système politique sans règles. Toute règle est considérée comme une atteinte à la liberté. Et donc, du coup, c'est la liberté sans limite, sans aucune régulation. Donc, la définition est assez compliquée parce que c'est soit ce qu'ils prônent, c'est soit un capitalisme contre la démocratie ou sans la démocratie. Certains l'appellent un anarcho-capitalisme. Donc, c'est un capitalisme très violent. Mais par certains aspects, on pourrait dire aussi que c'est un capitalisme des voyous, un capitalisme des malfrats, parce que vous voyez bien, par exemple, pas de règles. L'un des instruments de la souveraineté d'un État, c'est notamment la politique monétaire. Mmh. C'est un instrument de la souveraineté. Or, eux ne veulent plus de politique monétaire conduite par les États. Et donc, ils défendent un système de crypto-monnaie. Et vous avez vu que Milei est poursuivi précisément en Argentine parce qu'on considère qu'il a des systèmes d'escroquerie autour des crypto-monnaies. Mmh. Et donc, c'est pour ça que c'est très ambigu. C'est que c'est un nouveau capitalisme qui me semble très dangereux, donc un capitalisme sans la démocratie, sans règles, qui s'apparente à un capitalisme sauvage. Donc, ça va beaucoup plus loin que le néolibéralisme. Et donc, du coup, comme il se doute que c'est un capitalisme qui sera socialement très mal accepté, ouais. Du coup, il se revendique de thèses très autoritaires, d'où la gamberge autour du nazisme que j'évoquais tout à l'heure. Ça peut être totalement stupéfiant, mais vous comprenez bien, par exemple, pourquoi Elon Musk fait le salut nazi. Ce n'est pas le geste totalement fou d'un bouffon dangereux. Ça, c'est 20 ans de bouillonnement intellectuel en Californie. Mmh. Et donc, du coup, on comprend pourquoi Elon Musk, le principal allié de Trump, celui qui finance sa campagne, fait le tour depuis un an de toutes les extrêmes droites européennes jusqu'aux plus les plus violentes. Voilà, donc c'est quand même un avenir, enfin, ça dessine une crise démocratique ou un danger démocratique absolument considérable.
Et justement, face à cette crise démocratique qu'on voit arriver au loin, on peut se demander si finalement, est-ce qu'il y a des patrons qui résistent à ce capitalisme libertarien. Dans l'enquête que je citais tout à l'heure de l'Observatoire des multinationales, il y a Alexandre Bouchereau, qui est le PDG de la plateforme de financement participatif Ulule, qui qualifiait donc Otium, le fonds d'investissement de ce terrain. Il disait que c'était un projet funeste et réactionnaire d'un cynisme extraordinaire qui pousse un agenda aux réalités, aux antipodes des aspirations de l'immense majorité des citoyens. Et en fait, on a l'impression que cette position fait largement figure d'exception. Et donc, ma question pour vous, c'est est-ce qu'il y a des patrons, certains patrons que vous avez pu rencontrer ou trouver lors de vos recherches pour votre enquête, qui résistent à ces positions réactionnaires, ultra-conservatrices, à ce capitalisme libertarien? Ou est-ce que, finalement, ces positions-là grignotent une part de plus en plus importante du patronat au profit de l'extrême droite et du RN, du coup, en France?
Bah, écoutez, honnêtement, moi, j'arpente les arcanes assez sombres du capitalisme parisien depuis 30 ans. Hein. J'ai dirigé le service économique du Monde pendant de longues années, maintenant Mediapart. J'ai cherché, honnêtement, parmi les grands patrons, hein, ceux du CAC 40, j'en ai trouvé un seul, c'est le président du conseil d'administration de Safran, vous savez, un groupe qui fait les moteurs d'avion notamment, qui m'a dit si j'avais un jour à choisir entre mes convictions économiques, mes convictions démocratiques, je choisirais les secondes. Mmh. Hein. C'est le seul. 2002, il y a encore plein de patrons qui appellent à voter Chirac contre Le Pen parce qu'ils veulent défendre la démocratie. Là, maintenant, il y en a un seul, donc il est totalement minoritaire. Accessoirement, c'est un franco-australien, donc je pense que ses attaches australiennes font qu'il n'est pas totalement un patron du CERA, il est un peu différent des autres. Les autres, je trouve, soit ils sont d'extrême droite, soit ils ont une haine de la gauche. Et donc la conjoncture politique est très très nouvelle, quoi. C'est pour ça que je parle de basculement. C'est qu'on est au moment où la jonction entre le patronat et l'extrême droite est en train de se faire.
Mais d'ailleurs, en ce moment, vu la polarisation du débat politique, en fait, la haine de la gauche, c'est presque quasiment mécaniquement un peu une adhésion au moins implicite à l'extrême droite dans le débat politique.
Mais oui, regardez un grand patron, le plus connu, le plus puissant, Bernard Arnault. Mm. Vous avez vu la haine qu'il a pour la taxe Zuckman, de Gabriel Zuckman. D'abord, il le méprise. Il dit, ce pseudo-universitaire, Gabriel Zuckman est professeur à Berkeley, aux États-Unis, en Californie, et professeur à l'École normale supérieure. Donc quand même, il est prof dans les deux pôles d'excellence en économie dans le monde, en France et aux États-Unis. Et Zuckman propose une taxe, mais... en quoi est-ce que c'est... On a l'impression que c'est du communisme. Les gens oublient que le taux marginal de l'impôt sur le revenu aux États-Unis des années 30 jusqu'au début des années 80, vous vous souvenez quel était le taux marginal, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu pendant 70 ans?
c'était 90% aux États-Unis. 90%. Mmh. Et des patrons français s'insurgent qu'on fasse une taxe de 2% sur le patrimoine. Ça vous dit... Bon, il y a un aspect dans la posture de Bernard Arnault qui est trumpiste, quoi. Ça montre bien ce qu'est le climat de l'époque. C'est aucune concession. Mmh. On a gagné plein de choses, il en faut encore beaucoup plus. Il y a un aspect de comment dire, toujours plus, de radicalisme violent dans la posture de Bernard Arnault, qui, je le rappelle au passage, hein, il doit sa fortune à qui ? Et il doit sa fortune au fait que les socialistes, en 1984, lui ont abandonné Boussac Frères, dans lequel il y avait une pépite qui était Dior. C'est grâce aux socialistes qu'il doit sa fortune. Donc je trouve que c'est quand même sacrément gonflé d'avoir une posture à ce point arrogante et violente.
Très bien. On va s'arrêter là-dessus. Laurent Modu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes venu parler de votre ouvrage Collaboration qui est disponible aux éditions La Découverte qui est sorti en septembre dernier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci.
Et quant à nous, on se fait une petite pause musicale. On s'écoute tout de suite Calamantina de Saint-Levant.
صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني اي why you killin' me softly why you killin' me slow قشرت الكلمنتينة منينة زي لقطو why you killin' me softly why you killin' me slow رومانسي أنا يا حبيبة If you want me then let me know I don't wanna lie but you might be the love of my life And I just get you Think I'm in love with a vibe But she looked me in the eye and said I like your style Took you out for the very first time And now she's singing about you I don't wanna lie but I made you mine From the moment I met you mine I think I was meant for you I think you were meant for me You looking so good tonight You might be the remedy And all of this time I was looking but you were in front of me oh. صار لي زمان ما خجلتش من وحدة تتطلع فيك لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني اي why you killing me softly why you killing me slow قشرت الكلمنتينة مهما عملتي اديك انا عيني وانت نيا زي ما تتمني يا امورة شوف انا الصورة وبتجنن كده شطورة معاكي في سحابة على سما سبعة بيبي مش هنزل I can't say I'm taking it slow Baby you took me right out of my zone I usually nervous but I froze Got me talking to bro like hey bro She killing me softly killing me slow سيب الليلة يا حبي للعشق والشوق صار لي زمان ما خجلتش من وحدة تتطلع فيك لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش ليك عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني اي واي يو كيلين مي سوفي واي يو كيلين مي سوفي قشرت الكلمنتينة مينا زي
Et on vient de s'écouter Calamantina de Saint-Levant.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et dans le Zoom ce soir, Abel reçoit Sébastien Follin pour parler du festival Atmosphère, un festival dédié aux enjeux et aux solutions du développement durable. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Je te laisse la main, Abel, vas-y.
Bonjour Sébastien, merci d'être ici ce soir.
Alors, on le rappelle, Atmosphère, c'est un festival gratuit autour du développement durable, des sciences sociales, où la programmation s'axe autour des projections de films, des documentaires, mais aussi des rencontres et conférences thématiques, et toujours les pieds dans le verre. Alors, d'abord, je vais vous demander comment Atmosphère est singulier ou complémentaire par rapport à d'autres événements autour des thèmes du développement durable.
Alors, comme tu l'as présenté, c'est super précis, puis en même temps, j'ai pas envie d'y aller, là. Ça paraît être un événement super chiant, alors que pas du tout. En fait, nous, on fait ça depuis 15 ans. C'est un festival axé sur le cinéma, sur l'art, sur les performances. Et c'est un outil pour attirer les gens avec des outils divertissants pour réussir à modifier un petit peu leur façon d'agir au quotidien. En gros, on a une vingtaine de films en avant-première nationale ou internationale. C'est totalement gratuit. Il y a donc des artistes qui viennent. Il y a des rencontres avec des scientifiques. Les scientifiques qui viennent au Festival Atmosphère, pour moi, c'est des rockstars. C'est les mecs qui envoient des fusées dans l'espace, qui étudient la calotte glaciaire, qui étudient la biomasse et qui sont extrêmement passionnants. Et en fait, l'idée, c'est de faire se rencontrer 15 000 personnes quand même pendant le festival sur un week-end gratuitement et au final de se sentir un peu moins seul face aux enjeux de l'époque qui sont extrêmement angoissants. J'écoutais l'interview du politologue ou de
Laurent Modieu,
voilà, qui était juste avant, qui était très énervé comme beaucoup de monde actuellement. Et c'est vrai qu'on a besoin d'essayer de voir d'avoir une vision peut-être un petit peu plus légère, même si il faut rester totalement conscient du monde dans lequel on vit. Donc nous, on essaie d'apporter des solutions, mais par l'exemple, avec des scientifiques, des militants, avec des citoyens qui agissent au quotidien et sur le terrain. Donc c'est une forme de résistance pacifique. Le public vient avant tout pour voir des films. Donc, s'ils ne sont pas forcément intéressés par les sujets que l'on aborde, et je pense qu'ils le sont de plus en plus, contrairement à ce que l'on pense, s'ils ne sont pas intéressés, une fois qu'ils sont là, on les a un peu piégés, quoi. Puis après, on les chope et puis on leur dit, viens voir par ici, on a des trucs à te raconter. Et généralement, tout ça se fait en douceur, bien sûr, hein, quand je dis on les piège, tout ça est fait avec beaucoup de bienveillance. Et généralement, on repart un petit peu différent de la première fois quand on vient à Atmosphère.
Ok, super, merci. Et est-ce que vous arrivez à avoir des retours sur le festival et comment ça impacte ou ça influence les participants et même sur le milieu culturel de manière générale?
Ouais, on a fait ce qu'on appelle une étude d'impact. On est un festival qui est soumis aux aléas économiques de l'époque, donc c'est très compliqué pour faire un festival gratuit. On est donc on a évidemment des aides publiques. C'est un festival qui est financé en grande partie par la ville de Courbevoie, mais également par beaucoup de partenaires privés. Et donc ils veulent savoir à peu près quel est l'impact sur le public. Et donc on a fait ce qu'on appelle une étude d'impact. Voilà, c'est un truc un peu, ça peut paraître un peu rude comme terme, et on se rend compte que deux tiers des gens qui viennent au festival voient les choses différemment et modifient même leur comportement au quotidien. Après, il y a quelque chose qui est, je pense, dans notre époque, qui est extrêmement pervers de la part des décideurs politiques. On se rend bien compte que le problème est systémique. Et ils nous disent d'un côté, écoutez, consommateurs, consommez mieux, faites attention, mangez bio, arrêtez avec la fast fashion, arrêtez avec la malbouffe, arrêtez avec toutes ces choses qui détruisent la planète. Et puis derrière, ils prennent des décisions totalement contraires. Il n'y a qu'à voir sur la loi du plomb. C'est-à-dire que d'un côté, ils vous disent c'est très mauvais le climato-scepticisme. Et puis au moment où il y a des scientifiques qui mettent en avant des arguments extrêmement tangibles et très concrets sur le fait que cette loi est un vrai danger pour la nature. Ils disent oui, non, mais enfin, ils n'ont pas tout le temps raison, les scientifiques. Voilà. Donc, on est vraiment dans la perversion de l'époque. Et je trouve que c'est un peu trop facile de faire porter l'ensemble des problèmes aujourd'hui aux citoyens. Alors, on peut faire des choses, on peut avancer, mais je pense qu'à force de nous retrouver ensemble à faire des choses et à changer nos petits comportements, on fait aussi une masse globale qui fait que cette masse va peut-être, on l'espère en tout cas, réussir à faire pencher la balance dans un autre sens. Mais c'est pas facile, hein, on est dans un vrai combat. Moi, je vous dis qu'on est dans une résistance pacifique parce qu'on utilise la culture, la science, l'émerveillement, le divertissement pour réussir à faire éveiller les consciences. Mais c'est vraiment pas facile face au mur que l'on a devant nous. Et il faut pas baisser les bras. C'est pour ça qu'on est plutôt fiers d'être toujours là depuis 15 ans. On a des rencontres absolument incroyables avec les scientifiques. On a des trucs pour les enfants. On a plus de 3000 scolaires qui sont sur le festival pendant les 5 jours. On a les films donc, qui sont gratuits, on a des performances, on a des rencontres, on a des débats, on a des conférences. C'est absolument exceptionnel. Donc je vous invite à venir à Courbevoie, vous allez voir, vous allez passer 5 jours. Ça commence demain avec des films, dès demain à Belgans. On a 3 salles de cinéma. À Belgans, qui est une salle de cinéma d'art et d'essai. On a l'espace Carpeau, qui est une salle de 400 places. Et puis on a l'espace événementiel avec 1000 places pour des très grands films. Et pendant, ça commence donc dès demain et après-demain avec des projections de cinéma. Et puis à partir de vendredi, on a l'ouverture du village, Village des Solutions. Vous pouvez aussi venir boire juste une bière, manger une pizza végétarienne. Et vous verrez, elles sont très très bonnes. Et puis vous pouvez accéder à vos salles, à vos différentes salles pour rencontrer des scientifiques. Et d'ailleurs, cette année, il y a Marie-Odile Monchicourt qui a lancé un concept génial. Elle a lancé le Café des Sciences, c'est-à-dire qu'on a une trentaine de scientifiques pendant la durée du festival qui viennent. Et quand je vous dis les scientifiques, c'est du panier, hein. C'est du très très lourd. Donc c'est vraiment des gens exceptionnels et qui, au contraire, ne sont pas dans un truc vertical de personnes très prétentieuses qui pensent savoir. Au contraire, elles sont dans la recherche d'échanges. Et on a fait le Café des Sciences avec Marie-Odile Monchicourt. Donc toutes ces personnes qui viennent sur le festival ont une heure pour échanger autour d'un café, d'une bière, d'un coca. L'alcool, c'est mauvais pour la santé. Et voilà, puisqu'il faut le dire, hein, quand on parle de bière.
Grosse mec, modération.
Voilà, avec modération, mais bon, une bière quand même. Et puis, donc, vous pouvez échanger pendant une heure avec ces scientifiques. Donc, on a vraiment quelque chose qui essaie d'être circulaire et d'être horizontal plutôt que d'être dans un monde vertical de sachant
à sachant ignorant,
merci beaucoup, qui est un modèle peut-être un petit peu archaïque.
D'accord. Et du coup, vous parliez des rencontres, justement, ouais. Et c'est quand même une partie intégrante du festival, ouais. Au-delà de la programmation cinématographique. Mmh. Et en fait, toutes ces rencontres, elles sont donc scientifiques, mais aussi sociétales, où on aborde par exemple la spiritualité ou l'IA. Mmh. Et est-ce que c'est des échanges que vous choisissez dans un cas précis en fonction de chaque édition, ou vous essayez de faire quelque chose dans des sujets englobants, ou alors vous êtes hermétique, enfin plutôt spongieux par rapport aux sujets d'actualité, vous adaptez chaque année à des nouvelles dynamiques, des nouveaux enjeux.
Ouais, le truc c'est qu'on cherche une thématique. Alors on a la chance d'avoir notre fondateur du festival qui est également le délégué général qui s'appelle Pascal Signolet, c'est son bébé. Il a mis 9 ans à le créer ce festival, c'est au moment des catastrophes du Prestige et de l'Erika, ces marées noires désastreuses à la fin des années 90 et au début des années 2000 qu'il a eu l'idée de faire ce festival. Donc vous voyez, ça remonte à très très loin. Il a mis 9 ans à y arriver et il est courbevoisien, et pour lui sa petite victoire déjà à l'époque en 2011 quand il a créé ce festival, c'est de réussir à le créer au pied des tours de la Défense où se trouvent les plus gros pollueurs de la planète, dont Total bien sûr. Et donc pour lui c'était vachement important. Et puis il cherche chaque année un thème qui soit assez englobant mais en même temps qui permette d'aller chercher des sujets d'actualité et d'être toujours un petit peu en avance sur la réflexion. Donc cette année c'est les intelligences, c'est donc l'intelligence artificielle, mais aussi les intelligences du vivant. Donc on peut tout à fait faire dialoguer un spécialiste en intelligence artificielle. Cette année, on reçoit l'inventeur de Siri comme des spécialistes en intelligence marine, de biologie marine. Et cette interconnexion fait qu'il y a forcément encore une autre forme d'intelligence qui ressort de ce genre de discussion.
Oui, parce que du coup, pour les auditeurs qui ne savent pas forcément, sur la programmation, on voit que ce n'est pas que autour des thématiques du développement durable. Par exemple, je pense au film Amour Apocalypse ou Les Rêveurs, qui reprennent plutôt des thèmes de résilience, de bienveillance, d'amour, d'humanité. Et du coup, il y a une réelle volonté de faire un lien. Et si oui, comment vous concevez ce lien ?
Bah, le lien, il est dit, c'est-à-dire que les rêveurs, le rêve est le moteur de la réalité, c'est ce que disait Aimé Césaire. Et tout ce qui touche à l'amour, eh bien, je crois que c'est ce que l'on essaie de véhiculer, c'est que le plus important, c'est de créer du lien entre nous. C'est bien le lien qui réussit à faire changer les choses. Et aujourd'hui, on dresse les gens les uns contre les autres, et puis dès qu'on met tout le monde dans une même pièce et qu'on commence à se calmer un peu et qu'il y a une vraie volonté de discuter et pas d'être dans des discussions partisanes et guidé uniquement par de l'idéologie, on se rend bien compte qu'on finit par, par s'entendre. Donc nous, notre principe, c'est de voir tous les piliers du développement durable qui sont l'écologie, l'économie et le social. Déjà, ça, c'est les trois piliers fondateurs du développement durable. Et donc avec ça, si vous prenez tous les sous-thèmes et que vous bossez par cercle concentrique, vous touchez globalement tous les sujets. Vous allez de la spiritualité à l'économie dure, en passant par le gaspillage alimentaire, en passant par la biologie marine, en passant par l'astrophysique ou encore les glaciers.
D'accord. Et est-ce que ce festival, il s'inscrit aussi dans des luttes et des actions de terrain au cours de l'année ? Ou vous concentrez essentiellement sur ce week-end de festival ?
Non, on est évidemment partenaire et cousin avec beaucoup de festivals et beaucoup d'actions culturelles qui se passent en France. Mais c'est vrai que on a une petite équipe extrêmement solide et qui travaille au quotidien sur ce festival. Donc nous, on se concentre principalement sur le festival, mais on est évidemment présent dès qu'il y a des événements importants. Et encore une fois, moi je parle d'un combat pacifique parce que je pense qu'il y a plein de moyens d'arriver à ces fins. Et nous, on a vraiment envie d'apporter des choses par l'exemple. Et encore une fois, en réussissant à modifier le comportement, les consciences, la vision du monde grâce à l'art qui est quand même la chose certainement la plus universelle qu'on puisse trouver.
Et eh bien, ça me lie à ma dernière question. Pour conclure, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce qu'il y aura une œuvre ou une rencontre artistique, scientifique qu'on va pouvoir découvrir ce week-end à Courbevoie, que vous pourriez conseiller pour déclencher ou perpétuer une conscience écologique ?
Bon, écoutez, là, je vais prêcher pour ma paroisse, même si le festival, je fais partie des fondateurs, donc parler du festival, c'est parler évidemment du travail de toute l'équipe. Samedi soir, je vous invite à venir à partir de 20h à Courbevoie, à la salle événementielle. Donc, salle Hubert Reeves, d'ailleurs, grande salle de 1000 personnes. On fait une grande soirée spéciale glacier avec Heidi Sevestre, qui est une superstar des glaciers, qui est une nana formidable. Et on a invité... on va dire les Avengers du glacier, quoi. C'est-à-dire que là, vous allez avoir sur scène tout ce qu'il y a de mieux au monde en termes de glacier, et il y aura des citoyens colombiens qui travaillent avec les communautés. On va parler du Pakistan, on va parler du Ladakh, on va parler d'Himalaya, on va parler des glaciers en France. Et c'est une soirée qui va commencer par un film sur Heidi, puis ensuite tous ces gens vont se succéder sur scène. On a Hugo Nani, et Ghost in the Loop, qui sont des musiciens qui travaillent avec le son des glaciers. Ça va être une soirée absolument exceptionnel, et donc je vous invite à venir voir ça, mais il y a tellement de choses, il y a des expositions, il y a des films, donc en gros vous prenez une chambre à Courbevoie à partir de mercredi midi, et puis vous repartez dimanche tranquillement vers 1h du matin, parce qu'on a plein de choses à faire ensemble.
C'est noté, génial. Merci beaucoup Sébastien Follant.
Merci Sébastien. Merci de l'invitation.
Présenter le festival Atmosphère, donc rendez-vous dès demain 8 octobre jusqu'à dimanche 12 ouais. octobre, c'est ça, à Courbevoie. Le rendez-vous est pris, merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup à
Merci
Bernice.
À vous.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et pour conclure cette émission de la matinale, je laisse la main à Delila qui va nous parler de Delila.
Absolument. Alors cette semaine, encore une fois, point de chronique d'actualité, parce que pour une fois, je vais vous parler de moi. Car vous et moi, on se tourne autour, mais je montre rarement mes émotions. Alors aujourd'hui, je laisse tomber l'armure et je vous dis sans faille, c'est mon anniversaire. Alors dans le cadre de cet événement festif prenant place environ une fois par an, je vous propose de réfléchir à une question qui brûle les lèvres de la France entière. Est-ce que je vais enfin trouver un emploi et arrêter de venir vous casser les couilles toutes les semaines ? Non pardon, est-ce que j'ai les épaules pour exercer mon devoir de citoyenne et sauver ce pays de la dèche monumentale ? Vais-je pouvoir redonner le sourire à Emmanuel Macron en lui offrant une peluche du logo de CNews ? Pour le savoir, je vous propose de plonger dans mon passé. Delila voit le jour en périphérie de New York, dans la commune de Roubaix. Elle naît dans un foyer aimant et protecteur, lui permettant d'acquérir confiance en soi et estime de soi. Très vite, elle devient habile de ses 10 doigts et en 3 ans seulement, elle obtient le très prestigieux prix d'art juvénile, ayant la première réussi à finir son coloriage sans déborder. Alors que tout semble lui sourire, le premier drame de sa vie la bouleverse. Elle oublie de mettre du Nesquik dans sa tasse et se retrouve à boire du lait chaud nature, ce qui est franchement dégueulasse. Elle rentre ensuite à la Business School of Charleville-Mézières, l'école de commerce la plus proche du Luxembourg. Elle y apprend l'art du débat et prend l'option Jokari, pour laquelle elle obtient la note suprême, le zéro. Sans emploi après son cursus, malgré 4 ans d'alternance dans le management de Boudin, elle rentre au domicile familial et tente de lancer un business de briquet connecté permettant d'indiquer le niveau d'essence via un smartphone. Après cet énième échec, elle trouve domicile à Paris et, tentant vainement d'oublier sa période de chômage, elle pose ses valises bénévoles chez Radio Campus Paris. Regardons ensemble le pédigré de ses premiers ministres, hein, Macron, voir si c'est mieux. Édouard Philippe, déjà le mec il a deux prénoms, en fait les uns aux autres. Bon ok, j'avoue j'ai rien sur les premiers ministres, je suis finito. C'est ma dernière chronique sur ces ondes, j'arrête les dégâts et je déconne. Tant que Sophia Aram et Marie Saint-Filtre pourront parler en étant rémunérées par le service public, je ne me tairai pas. Peut-être que les anciens premiers ministres de Macron, ils ont fait Hippocane, Sciences Po, Elena, je sais pas quoi, mes couilles. Mais moi, j'ai fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et que le docu juste avant a oublié, à savoir une formation Pôle emploi en développement web, payée 400 euros par mois. Bon ok, j'ai compris que je ne faisais pas le poids, mais de toute façon on n'a toujours pas de gouvernement, bientôt plus d'assemblée, plus de président, déjà qu'il n'y a plus de saison. Hein. J'ai appris sur Twitter juste avant l'émission que la France allait peut-être être héliportée hors de l'Europe pour la poser juste à côté du Groenland, apparemment ils pensent même à, je n'ose pas le dire, à retirer les pépitos du rayon gâteau des supermarchés. Tout fout le camp ma bonne dame.
Merci beaucoup Delila pour conclure cette émission en beauté et merci à vous chers auditeuristes, merci à nos invités ce soir, Laurent Maudit pour parler de son ouvrage Collaboration aux éditions La Découverte, Sébastien Follin pour parler du festival Atmosphère, rendez-vous dès demain à Courbevoie, merci à Abel, merci à Delila, merci à Joey à la Réal, merci à Aude et Jeanne à la coordination pardon, et à très vite dans la matinale.